Deutsche Welle. Droits et libertés.
Aujourd'hui, dans ce magazine, on parle de la police en Allemagne. La police comme garante des droits, de la sécurité des citoyens, mais aussi des dérives possibles liées au monopole de la violence. C'est Sandrine Blanchard au micro. Bonjour à tous. Max Weber écrit dans Le Savant et le Politique qu'un État est une communauté humaine qui revendique le monopole de l'usage légitime de la force physique sur un territoire donné. Cela veut dire que seul l'État est habilité, en théorie avec l'accord de tous les citoyens, à employer la violence de façon légitime. Et même si, dans certains cas précis, les citoyens ont le droit de recourir à la légitime défense, c'est parce que l'État le leur permet et en définit le cadre légal. La notion de police varie d'une époque à l'autre et d'un État à l'autre. Et la relation complexe entre violence et pouvoir a déjà été très bien analysée par d'autres. Et là, je vous renvoie notamment à la lecture de Hannah Arendt ou Michel Foucault. On aura l'occasion sans doute d'y revenir dans une autre émission. Mais en règle générale, on peut affirmer que sur un territoire et dans une société donnée, la police est l'instrument dont dispose l'État pour garantir, promouvoir ou sauvegarder les intérêts de la collectivité. En Allemagne, qui est un État fédéral, la police fonctionne de manière décentralisée. L'action est coordonnée par des structures nationales pour ce qui est de la police des frontières ou de la police criminelle. Mais sur le terrain, c'est aux Länder, donc aux régions, d'assurer la sécurité et les services de police. L'histoire récente de l'Allemagne est marquée par deux dictatures. D'abord le régime nazi au pouvoir de 1933 à 1945, puis de 1949 à 1989 par le régime communiste en Allemagne de l'Est. Un État totalitaire et répressif entraîne de nombreuses dérives de la police et des difficultés pour le pays à réorganiser l'état de droit une fois que ces régimes ont disparu. En mai 2014, notre correspondante à Munich était allée voir une exposition justement sur le rôle de la police bavaroise sous le Troisième Reich. Un petit rappel avec Isabelle Hartmann.
Juste après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne est officiellement une démocratie, mais la société est déchirée entre les tendances d'extrême gauche et d'extrême droite. À la faveur de ce chaos politique, les nationalistes prennent la tête de la police de Munich et inculquent aux policiers la culture de traiter les socialistes et les communistes à coups de bâton. Les extrémistes de droite, en revanche, sont laissés en paix. En clair, sans l'aide de la police de la ville de Munich, entre 1919 et 1923, Hitler ne serait peut-être pas devenu ce qu'il est devenu. En 1933, il remporte haut la main les élections législatives. À Munich, c'est Heinrich Himmler qui prend alors la tête de l'appareil policier. Il est l'un des fidèles d'Hitler et deviendra plus tard le numéro 2 de la dictature nazie, juste derrière le Führer. Walter Nickmann.
On le voit dès les premières semaines. Il y a plus de 5000 arrestations parmi les syndicalistes, les socialistes et les communistes. Et ce n'est pas un hasard non plus si le 20 mars 1933, soit à peine 10 jours après la prise de pouvoir des nazis en Bavière, un camp de concentration est créé à Dachau, juste à côté de Munich. Ce camp, qui va d'ailleurs au tout début être surveillé par des policiers, va servir de modèle à tous ceux qui vont suivre. Et l'on voit ainsi qu'au moins au début de la dictature nazie, Munich avait une position spéciale.
Avec l'affermissement du pouvoir nazi dans toute l'Allemagne, la capitale bavaroise et sa police deviennent des rouages normaux de la dictature. Le commissaire général Walter Nickmann.
Un général de l'armée régulière allemande, la Wehrmacht, écrit que ses soldats sont écœurés par les atrocités commises par la Gestapo et les bataillons de policiers. On voit à ce genre de témoignage que les policiers avaient perdu tout sens éthique.
À la fin de la guerre, en 1945, les polices municipales allemandes ne font pas partie des organisations que les alliés jugent systématiquement. Conséquence, des dizaines de milliers de fonctionnaires vont faire profil bas et vont ainsi rester de nombreuses années à leur poste sans être inquiétés.
Dans les années 1960 et 1970, la modernisation de la police ouest-allemande est en cours. Mais lors d'une manifestation estudiantine en 1967, l'assassinat de l'étudiant Benno Ohnesorg à bout portant par un policier marque un tournant, d'autant que l'agent est acquitté et pourra terminer sa carrière sans être inquiété. La jeunesse d'extrême gauche critique alors les forces de l'ordre et leurs méthodes brutales qu'elle assimile à des reliquats de l'autoritarisme nazi. Ici un exemple en musique d'une chanson de 1972 suite à l'assassinat d'un autre militant de gauche.
Der Marienplatz war blau, so viel Bullen waren da und Mensch Meier musste heulen. Das war wohl das Tränengas.
En Allemagne de l'Est, les autorités soviétiques font le ménage de suite à l'après-guerre en remplaçant systématiquement les policiers qui étaient en service avant l'armistice de 1945 au nom de la dénazification. La police et notamment la police secrète d'État seront pourtant en RDA des instruments d'espionnage et de répression au service du régime totalitaire. À la réunification de 1989, l'Allemagne doit à nouveau examiner de près les rangs de la police pour améliorer son image. Certains policiers est-allemands qui avaient trop trempé dans le régime communiste de RDA sont démis de leurs fonctions. D'autres, moins impliqués, sont intégrés dans la police fédérale réunifiée. Aujourd'hui, près de 80% des Allemands ont une image positive de leur police. Pourquoi ? Carsten Dams, spécialiste de la police allemande et enseignant, a une explication.
Les choses ont surtout changé ces 20-30 dernières années et à mon avis, c'est en premier lieu parce que la profession s'est féminisée et que cette évolution est vraiment visible. Cela fait certes un peu cliché de dire qu'une femme a en soi tendance à être moins violente qu'un homme pour résoudre un conflit, mais force est de constater que l'ambiance est différente depuis qu'elles sont plus nombreuses dans le métier.
Nous revoici donc en 2014 et dorénavant, l'histoire de la corporation fait partie intégrante de la formation des jeunes recrues de la police en Allemagne. C'est sur ce rap quelque peu déconcertant de la police régionale de Rhénanie du Nord-Westphalie pour inciter les jeunes à s'engager dans ses rangs que nous retrouvons Philipp Reichert. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez assisté pour nous à des exercices de la police allemande.
Dans un bâtiment de chemin de fer allemand, les hommes ont tiré sur un agent. Les policiers doivent sauver la vie de leurs collègues, quitter les lieux et surmonter une course d'obstacles.
On dirait presque un roman policier.
Ah, aujourd'hui, heureusement, ce n'est qu'une simulation. Ces exercices ont lieu près de la ville de Bonn. Regina Balzer est attachée de presse de la police fédérale. Elle explique l'objectif de la journée.
Il y a plusieurs objectifs. D'abord la sauvegarde de pièces à conviction et l'arrestation. Mais la plupart des exercices portent sur différentes situations du quotidien des policiers.
Alors Philipp, la tâche principale de la police allemande est de maintenir l'ordre et de garantir la sécurité publique. Les exercices auxquels vous avez assisté sont destinés à éprouver la force physique des agents, à les confronter aussi à des situations difficiles.
Oui, certains de ces exercices requièrent l'usage de la violence. Cela peut aller jusqu'à l'emploi de la matraque. Au cas d'urgence, c'est parfois officiellement permis. En Allemagne, la police possède le monopole de la violence, c'est-à-dire en tant que bras droit de l'exécutif, elle est la seule institution qui peut légalement faire usage de la violence sur le territoire national, mais dans des conditions bien définies. Walter Diederichs, responsable d'une unité chargée de la saisie de preuves de la police fédérale.
La police n'a pas le droit d'user de la violence de façon arbitraire. Elle est encadrée par des règlements stricts et la violence du policier ne doit jamais dépasser celle de l'individu auquel il fait face. Un élément perturbateur, c'est quelqu'un que nous soupçonnons ou que nous surprenons en train de commettre un délit ou de représenter une menace pour la sécurité publique.
Autre exercice spectaculaire, des fugitifs armés sont tombés dans un lac avec leur véhicule suite à une course-poursuite. Au fond du lac, profond de 9 mètres, il y a des mannequins qui font office des fugitifs. Les policiers doivent sauter depuis un hélicoptère dans le lac, tirer les suspects hors de l'eau et les réanimer. Dans le même temps, il faut confisquer les armes des fugitifs.
Alors cette fois-ci, les policiers n'auront pas eu de mal à désarmer les suspects, mais bien souvent, les armes à feu posent problème dans les situations réelles. Les policiers allemands, eux aussi, ont une arme de service. Et là aussi, les règles qui encadrent l'usage de ces armes sont très précises.
Oui, il faut que le suspect ait déjà commis un crime ou qu'il soit en fuite. Mais en dernier recours, c'est au policier d'apprécier individuellement la situation. Le choix n'est pas facile, comme l'explique Regina Balz.
Vous devez vous décider très vite. Il faut avoir en tête que l'arme est notre dernier recours. Et là aussi, il y a des lois qui limitent, comme celui de devoir tirer un premier coup en l'air en guise d'avertissement. Mais à certains moments, il faut vraiment se décider, je tire ou pas.
Mais la violence policière peut survenir aussi dans le cadre de manifestations qui risquent de dégénérer. Dans ce cas, la police est obligée d'opter d'abord pour des moyens non violents.
Nous respectons bien sûr le principe de la réponse proportionnée. C'est très important. Comme dit le proverbe, n'écrase pas une mouche avec un marteau. Il faut réagir en fonction de la situation. Ce n'est pas parce qu'un manifestant lance une bouteille qu'on a automatiquement affaire avec des criminels.
Signalons aussi que les moyens violents qui sont employés lors de certaines manifestations ont fait l'objet de controverses en Allemagne. Un exemple de 2010, des manifestations contre la construction d'une nouvelle gare à Stuttgart, dans le sud du pays. La police a usé de canons à eau contre les manifestants, un homme à la retraite a perdu un œil. La position officielle de la police était celle que l'homme aurait provoqué les policiers et se serait mis lui-même face au jet d'eau, malgré les mises en garde de la police.
Et là, la justice tranchera sur la question puisque le procès vient de s'ouvrir. Merci Philippe Reichert. C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci aussi à Constance von Kotze, Isabelle Hartmann et Philippe Reichert pour les sons. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site dw.de/français pour réécouter ou balado-diffuser ce magazine en vous rendant dans la rubrique « Nos podcasts » pour nous écrire une adresse électronique français@dw.de sans la cédille à français comme d'habitude. Salut et à la semaine prochaine.